Lorsque Michael introduisait ce dernier chant, je pensais, on peut le lire. Lorsque les 10 commandements sont introduits, regardez comment cela commence. Dans les synagogues, lorsqu'on parle des 10 commandements, on dit que le premier commandement, c'est « écoute ». Avant, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Regardez Deutéronome, chapitre 5, regardez comment c'est écrit. C'est juste pour introduire ce moment de partage sur le couple. Deutéronome, chapitre 5. Et c'est vrai que si on n'écoute pas, on ne pourra pas entendre et ça ne servira à rien. Deutéronome, regardez, chapitre 5. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Écoute. » Donc c'est bien la preuve que si on n'écoute pas, ça ne servira pas à grand-chose que Dieu nous parle. Donc nous allons aborder notre sujet, nous allons faire plusieurs lectures. D'abord sur le témoignage de Moïse, Actes chapitre 7, verset 20. Actes chapitre 7, verset 20. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme un fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un que nous trageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient, que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. Donc un petit résumé de ce que Moïse était avant ses 40 ans. Nous allons lire dans l'Exode au chapitre 4, un autre témoignage. Exode chapitre 4, le Seigneur... Encore 40 ans sont passés, il a appris certaines choses par rapport justement à sa sagesse, par rapport à son intelligence. Et dans le livre de l'Exode, il s'en va vers le pays d'Égypte pour accomplir le plan de Dieu. Car ce que nous comprenons, c'est qu'au fur et à mesure que nous obéissons, nous avançons dans le plan de Dieu. Exode chapitre 4, verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Donc sa femme, Séphora, prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « Époux de sang » à cause de la circoncision. Exode chapitre 18, là aussi, du temps a passé. Exode 18, verset 1er. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, donc vous voyez, du temps a passé quand même. Exode 18, donc c'est le beau-père de Séphora. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui lui avait été renvoyée. Il prit aussi les 2 fils de Séphora. L'un se nommait Guershom, car Moïse avait dit « J'habite dans un pays étranger ». L'autre se nommait Éliézer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru, il m'a délivré de l'épée » de Pharaon. Donc, dans ces 3 textes, on voit un petit peu le parcours de la vie de Moïse. Moïse qui avait beaucoup appris, qui avait beaucoup d'intelligence et beaucoup de sagesse. Est-ce que c'est bien d'avoir beaucoup d'intelligence et beaucoup de sagesse? Ben oui, c'est important. Il avait appris ces choses-là. C'est pas pour ça qu'il a obéi à Dieu non plus. Vous voyez? Les problèmes conjugaux de certains hommes de Dieu dans la Bible, ça vaut vraiment la peine de les étudier. On a des difficultés. Vous avez vu, le 3e texte, on voit Jéthro qui ramène Séphora vers sa femme. Donc, ça prouve qu'il y avait eu une séparation. Comment ? Vers son mari, pardon. Merci. Merci. Je pense que vous aviez tous quand même fait compris. Hein. Ce qui prouve quoi ? Qu'il y avait une séparation. Vous voyez, comme quoi, dans un couple, même Moïse... C'est vrai que ça fait réfléchir, ces couples, ces situations. Elles sont écrites, pas pour dire « Ah bon, Moïse, il a baissé dans mon estime depuis que monsieur, bon, il a fait l'étude sur le couple. » Non, c'est écrit parce que même quand on est un homme de Dieu de la trempe de Moïse, malgré la sagesse que l'on a pu avoir, malgré l'intelligence et malgré les désirs que l'on peut avoir, comme on l'a lu dans la première lecture, eh bien, les autres ne peuvent ne pas nous comprendre. Vous avez vu, il pensait que ses frères comprendraient. Là, ça sera l'objet de, peut-être de la dernière étude, mais il ne faut pas faire avec ce qu'on pense que les autres pensent. Il vaut mieux partager les vrais besoins et faire connaître les besoins plutôt que de dire « Ah, je pensais que vous devineriez. » Moi, on me l'a souvent dit. Hein. « Je pensais que vous sauriez. J'attendais que ma femme devine. » C'est pas comme ça que ça marche quand on veut qu'un couple soit béni. Donc, Moïse a eu trois périodes de 40 ans. 40 ans pour apprendre, pour croire qu'il était quelqu'un. Parce que c'était quelqu'un quand même en plus. C'était le futur pharaon. N'oubliez pas que Moïse a renoncé au plus grand poste de l'époque qu'il y avait sur la terre. Pourquoi ? Eh bien, pour se retrouver pendant encore une autre période de 40 ans dans le désert, où là, il a appris que... Qu'est-ce qu'il a appris pendant ces 40 ans dans le désert ? Imaginez-vous la différence. Qu'il n'était rien. C'est ça que vous avez dit ? Ouais. Oui, on peut le dire comme ça. 40 ans à apprendre qu'il n'était rien. Et une autre période de 40 ans, où pendant 40 ans, il a quoi fait ? Il a vu ce que Dieu peut faire avec quelqu'un qui n'est rien. Vous voyez ? Pourquoi je prends ces exemples, c'est la vie de Moïse pour commencer ? Parce que la vie, c'est fait de ruptures, c'est fait de changements, c'est fait de réorientation, même si on a beaucoup appris, et qu'il faut du temps. Il faut du temps pour apprendre, oui ou non ? Ceux qui sont mariés depuis longtemps savent qu'il y a des choses qu'il faut des années pour les découvrir, des années pour changer, et il faut l'accepter. D'ailleurs, ailleurs, Moïse dira dans Exode 3:11, à un moment donné, « Qui suis-je ?» Je sais pas, on peut le lire. C'est quand même important parce que ça fait partie de ces problèmes, les psychologues appellent ça des problèmes d'identité, mais bon, ça existe, vous voyez, Exode 3. Rendez compte, après, il a 80 ans, il a vécu des choses... extraordinaire, jusqu'à 40 ans. Après, il a vécu des choses frustrantes, encore. Mais regardez, lorsqu'il se trouve devant Dieu, Exode 3, verset 11, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je ? » Qui suis-je ? C'est une question qui indique qu'on a un problème. Est-ce qu'on peut avoir des problèmes ? Est-ce qu'on peut avoir des problèmes d'identité ? Parce que quand même, Moïse, ce matin, j'étais en train de prier, mais Moïse, ça a été un enfant adopté. Oui ou non ? C'était un enfant adopté. Et cette semaine, je réfléchissais à des sujets que j'ai développés ou que je vais continuer à développer, mais j'ai souvent remarqué que les hommes ou les femmes que Dieu a utilisés sont des hommes et des femmes qui ont souffert. Ils ont souffert, regardez, j'en parlais jeudi à la réunion de formation, pourquoi Dieu a-t-il permis que Anne souffre pour enfanter, pas au niveau de l'accouchement, mais pendant des années, Anne souffre de stérilité. Vous savez, il est dit, ah, Dieu l'avait rendue stérile. Il aurait pu naître, point barre, et voilà, et Samuel était programmé à être le grand prophète. Des années et des années de souffrance. Pourquoi ? Parce que les choses de Dieu, souvent, sont préparées dans la souffrance. Alors on pourrait dire, mais qu'est-ce que c'est ce travail ? Eh bien, c'est facile à comprendre. C'est que souvent, on ne change vraiment que ce qu'on souffre. Vous le savez ça ou non ? Si on est intelligent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans la souffrance, s'éloignent de Dieu. C'est un vrai poker. C'est-à-dire que où les gens apprennent et comprennent qu'on le change dans la souffrance, ou alors les gens s'éloignent de Dieu parce qu'ils refusent toute forme d'adversité. Vous avez vu que ça vaut la peine de regarder le problème. Parce que quand même, je vous dis, il s'est séparé de sa femme pendant un moment parce qu'il y avait un problème spirituel. Un problème par rapport à la circoncision. Ils n'en avaient peut-être pas parlé ou ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. C'est pas facile quand on est marié avec quelqu'un qui a une autre culture, quelqu'un qui a une autre tradition. Est-ce que vous comprenez ? Tout ça rentre en ligne de compte. Alors au début, vous ne le voyez pas. Mais plus vous travaillez ce sujet sur le couple, pour vous dire, mais quand même, il y a, c'est écrit, ça pourrait ne pas être écrit. On aurait pu dire, Moïse est parti en Égypte, et voilà. C'est écrit, pourquoi? Parce qu'il faut que nous comprenions bien que lorsqu'on se marie, lorsqu'on veut se marier, il faut aborder toutes les éventualités. Une chose est certaine, c'est que vous savez ce à quoi Dieu va vous appeler. Est-ce que vous le savez? Les jeunes hommes, les jeunes filles, ça vaut la peine, si vous devez vous marier, que vous discutiez de cette éventualité. Imaginez, vous êtes infirmière et vous fréquentez un garçon et vous dites, voilà, je suis infirmière au centre hospitalier de Toulouse. Voilà, mais au fait, tu sais, moi j'ai à cœur d'aller travailler en Chine. Pardon ? Oui, tu sais, après le mariage, moi j'aimerais, parce que j'ai un appel missionnaire. Est-ce que ça peut arriver quelque chose comme ça ? Oui. Tu vas travailler avec quel organisme? Avec l'organisme des Assemblées de Dieu. Tu vas gagner combien? Eh bien, 3 fois moins. Ah, d'accord. Tu m'aimes? Oui, oui, je t'aime. On en reparlera, s'il te plaît. Mais voyez, bon, je dis ça en souriant, mais avouez que ça vaut la peine, quand on lit des textes comme ça, de développer une véritable communion avec celui avec qui on envisage de se marier. Parce que ces problèmes-là nous montrent certaines choses. Que la maturité, ça se travaille, même quand on s'appelle Moïse. Ça se travaille, et ça se travaille comment? Dans une véritable communion. On excelle dans l'expression de la communion avec Dieu. Enfin, on excelle, les pasteurs, on appuie là-dessus pour que les chrétiens développent une véritable communion avec Dieu, et c'est archi important. Mais il me semble aussi qu'on doit travailler à développer une communion entre nous, entre frères et sœurs déjà, parce que c'est important. Combien de fois, je ne savais pas, pendant des années, je me suis fait des idées, je croyais que tu ne m'aimais pas. Vous l'avez jamais entendu, ça? Vous l'avez jamais entendu? Moi, je l'ai entendu plusieurs fois. Je croyais qu'il ne m'aimait pas. Vous vous étiez déjà parlé? Non, jamais. C'est quand même dommage d'en arriver là. Et vous voyez, de se faire des idées. Comme Moïse, c'est pour ça qu'il pensait que ses frères comprendraient que, en tuant un Égyptien, l'œuvre de Dieu allait commencer à se faire. Alors, il aurait pu en tuer un tous les matins au petit déjeuner, ça ne changeait rien du tout. Hein. Ça ne change rien du tout. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre les choses. Et si on veut se marier, il vaut mieux discuter avec la personne. De tout. En tous les cas, tout ce qui est utile. Moi, je suis frappé. Si vous saviez tout ce que j'ai entendu. Franchement, mes frères et sœurs, vous savez, Moïse, c'est quelqu'un. Pour moi, c'est le plus grand de l'Ancien Testament. Après, le plus grand du Nouveau Testament, c'est Paul. On ne va pas mettre Jésus dans la liste des hommes à comparer. Mais même un homme comme Moïse n'était pas parfait. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand même, quand on parle de Moïse, on a quand même une dimension. Vous voyez, vous comprenez? Donc le but, c'est quoi? C'est de dire, mais si un homme comme ça n'a pas été parfait, je risque d'avoir du mal à rencontrer un homme parfait. Parce que si vous voulez vous marier avec quelqu'un de parfait, il vaut mieux de suite que vous optiez pour le célibat. Parce que les hommes parfaits, ils sont pris. Ils sont tous pris. Avec des femmes parfaites, bien entendu. Bon, on sourit. Est-ce qu'on a le droit de sourire? Bien sûr. Mais ça n'existe pas, les hommes parfaits. Et ça n'existe, les femmes parfaites, peut-être, je ne sais pas. Mais franchement, il faut être intelligent. Si vous voulez vous marier avec quelqu'un de parfait, moi je vous conseille de ne pas vous marier. Mais vous comprenez? Parce que plus on mûrit, quand on a 20 ans, quand on a une fille qui a 17, ou un garçon qui a 17, 18 ans, vous ne voyez pas les défauts de la personne. Quand vous vieillissez, quand vous mûrissez dans tous les domaines, hein. Dans le domaine intellectuel, dans le domaine du discernement, et vous pouvez voir un défaut que vous n'auriez pas vu chez le collègue en face à 25 ans ou à 30 ans. Donc, il faut quand même tenir compte de cette affaire de perfection. Vous entendez? Ne cherchez pas une personne parfaite, même si les chrétiens aspirent à faire des progrès. J'espère que votre conjoint, quand vous parlez avec lui ou quand vous prierez avec lui, soupirera à faire des progrès, car je pense que quand même, dans un couple, comme je le disais l'autre jour, l'extérieur, ça compte pas. Comme j'ai déjà entendu, non, ça compte pas, maintenant on est marié, l'extérieur, ça compte pas. J'ai pris 52 kilos, je me rase plus, je me lave plus les dents, c'est plus la peine. Je l'ai entendu, ça. Tout ce que je vous dis, je l'ai entendu. À quoi ça sert maintenant que je suis marié, que je me lave, quoi? Tous les jours. Allez, vous riez? Est-ce que vous croyez que j'exagère? Vous croyez que j'exagère? Eh bien non, j'exagère. Ce que je vous dis, je l'ai entendu. Pas que je me lave, que je me lave tous les jours. Moïse a fait des choix. On a pris des cantiques qui correspondent bien. C'est un choix. Il s'est marié à 40 ans. Bon, ça encourage peut-être certains. Il s'est marié à 40 ans. Il a fait un choix dans une période peut-être pas évidente. Mais ce n'est pas parce que les années passent qu'il faut absolument et à tout prix se marier. Maintenant, j'ai 30 ans, il faut absolument que je trouve un mec. Il faut absolument que je l'ai entendu, ça. Il faut absolument que je me marie. Et on se marie avec le premier qui arrive. Là, vous le savez que c'est vrai, ça. Combien sont passés par là? On ne se marie pas parce que le temps passe. On ne se marie pas pour imiter les autres. Moi, toutes mes copines se sont mariées à 25 ans, donc moi, je veux me marier à 25 ans. Voilà. Non, on fait des choix. C'est des choix, on peut faire des choix dans des moments de crise. Moïse, est-ce qu'il a fait un choix dans un moment où ce n'était pas difficile? Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est lui qui s'est marié parce qu'il est dit que j'ai trop donné sa fille à Moïse? Ah, c'est pas lui qui a choisi. Il donne sa fille à Moïse, on marie sa fille, on donne sa fille en mariage. Est-ce que ça existe les mariages arrangés? Est-ce que ça existe les mariages arrangés? Vous voyez, en tous les cas, une chose est sûre, c'est les gens qui se marient. Et ça, il faut bien le comprendre, c'est les gens qui se marient, on se marie. On fait un choix de se marier, c'est pour ça que ça vaut la peine de bien réfléchir. C'est vrai que l'environnement, ça joue un rôle. La famille, les gens que nous côtoyons, l'église dans laquelle nous sommes, ça joue un rôle, l'environnement. Les parents, ou les beaux-parents, les amis, ça joue un rôle quand même. Non, vous qui êtes mariés, vous le savez que ça joue un rôle. Alors c'est vrai qu'il faut apprendre ça aussi, Il faut apprendre. Moi, je sais que quand je me suis marié, ma famille, ils ne supportaient pas ma femme. Parce que, si vous voulez, elle m'avait volé à la famille. Ils ne la supportaient pas. Mais ça a mis du temps. Et après, ils ont réalisé certaines choses. Mais voyez, il fallait en parler. Ça a créé vraiment de la souffrance dans le cœur de mon épouse. Donc, il faut écouter les avis des gens. Il faut écouter les avis. Mais les gens qui donnent... Est-ce que les gens peuvent se tromper aussi? Eh oui. Les gens peuvent se tromper. Et c'est pour cela que, quand même, la maturité est nécessaire, même s'il y a des crises, comme Moïse a vécu des crises, il y a une certaine maturité qui nous amène véritablement à faire les choses par conviction. Parce que je parlais de l'influence de la famille ou de l'influence de l'Église. L'influence de l'Église, par contre, c'est... L'Église, c'est extraordinaire, l'Église, une famille. Est-ce que c'est bien? Mais quand on voit des gens qui jugent... Vous savez, le jugement, ça vient du diable. Je ne parle pas du jugement du péché. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que les hommes de Dieu ils doivent juger dans l'Église le péché? Oui, c'est écrit, juger le méchant. Ôter le méchant, les pasteurs qui observent qu'il y a du péché, doivent le juger. Mais on ne doit pas juger les situations. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe chez les gens. Et le jugement, ça, c'est diabolique. Pourquoi? Parce que le jugement, ça divise les gens. Et il faut veiller à ne pas juger. Quand une situation... Je le répète, parce que c'est arrivé ici. C'est déjà arrivé qu'on juge une situation alors qu'il n'y a pas le péché. Mais c'est des choix que les gens font. Et on ne se rend pas compte, mais on sera jugé avec la façon dont que l'on utilise. Donc faites attention. Si une situation est liée au péché, oui, à la limite, vous pouvez vous permettre de juger. Mais ne jugez pas des choix. Des choix que les gens font. C'est quand même un sujet important parce qu'il ne faut pas se mettre sous le jugement du diable. Sous la condamnation du diable. C'est pour ça qu'il faut savoir parler et discuter. Dans une église, on doit veiller à l'unité et ne pas juger. Moi, souvent, j'ai des gens qui disent « Ah, ce gars, il est souvent à côté d'elle, il doit se faire fréquenter. » Oui, il se fréquente. Ouais. Est-ce qu'un garçon peut amener une jeune fille du travail à l'église? Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que vous voyez? Et on a fait de dire, tiens, il a amené trois filles à l'église. En 2 mois, il a amené 3 filles à l'église. Oui, c'est des collègues de boulot, en fait. Non, mais après, on a vite fait de faire passer un garçon pour un coureur. Alors qu'en fin de compte, cette personne, elle a le fardeau des âmes, elle l'amène. Vous voyez, il faut juger le péché. Les jeunes, écoutez-moi bien. Parce que je pense que quand même, on est là pour apprendre, mais on veut tous la bénédiction. Vous voulez être béni. Est-ce que vous voulez être béni? Eh oui. Et vous savez, vous connaissez les lois. Bénissez afin d'hériter la bénédiction. Et si nous sommes dans le jugement, nous allons nous mettre en vrac. Et c'est dommage parce qu'on passe à côté de certaines choses. Alors après, je crois qu'on a besoin d'une direction. Est-ce que Dieu peut nous diriger dans un mariage? C'est vrai que quand on lit la Bible, il y a tous les cas de figure. Les mariages à la Rebecca et à Jacob. C'est quand même un drôle de mariage, ça. Ils se sont mariés sans se voir. Est-ce que vous pouvez dire, ah ben moi ça me va. Moi vous me rencontrez, je ne sais pas moi, si vous êtes d'accord, voilà, Prune si vous voulez, je vous prépare un garçon, voilà. Vous ne l'aurez jamais vu Prune. Mais écoutez-moi Prune, Rebecca et Jacob se sont mariés sans se rencontrer, sans se connaître. Oui. Comment? Oui. Est-ce que vous comprenez? Et il faut absolument faire attention, il faut qu'il y ait une direction de Dieu. Nous, quand on s'est converti avec ma femme, on s'est converti en septembre. Alors, ce que je vous dis, ce n'est pas peut-être un exemple à imiter. Parce que justement, dans la parole de Dieu, il y a des exemples à imiter, il y a des exemples à ne pas imiter. Mais nous, on s'est mariés en septembre, on s'est converti en septembre. En octobre, on avait décidé de se marier parce qu'il y avait une direction divine. Et c'était flagrant. Enfin, vous pouvez vous douter qu'au bout de 35 ans, je ne pense pas qu'on se soit trompé beaucoup. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait une direction divine. Et c'est ça qui est important, c'est que vous découvriez chacun cette conviction malgré ses imperfections et malgré tous les cas de figure qui peuvent se présenter. Parce qu'il faut apprendre à connaître l'autre, parce que l'autre, il a son caractère. Non? Oui? Le caractère, qu'est-ce qu'il y a qui peut déranger chez quelqu'un? Les goûts de quelqu'un, est-ce que c'est dérangeant les goûts? Ne me répondez pas tous en même temps. Est-ce que les goûts, est-ce que... Voilà. Ah, moi, j'aime pas le orange. S'il porte des chemises orange, il m'énerve. Je l'ai entendu. Il m'énerve. Parce qu'il met toujours ses chemises rouges. Mais vous croyez que je blague? Et est-ce que les goûts... Bon, je sais pas. Enfin, moi, je sais pas. Moi, ça m'énerve parce que quand les gens sont là, c'est quand même grave. Et des chrétiens. Les goûts, est-ce que ça doit intervenir? Vous voyez, c'est des choses, les attitudes, les réactions, les opinions. Les opinions, est-ce qu'on peut avoir des opinions différentes? Est-ce qu'un socialiste peut se marier avec une communiste? Non. J'extrapole un peu, mais mes frères et sœurs, ça vaut la peine de réfléchir. Oui, s'il y a un appel, etc. Bon, je pense que Séphora ne savait pas tout ce que Dieu allait faire au travers de Moïse, parce que c'est quand même particulier aussi. Mais vous ne savez pas ce à quoi Dieu peut vous appeler. En tous les cas, comme on l'a lu, le peu que l'on vient de lire nous montre que même quand on est appelé de Dieu, quand on est choisi par Dieu et que le plan de Dieu se précise de plus en plus, quand on voit que Dieu veut faire mourir Moïse, moi la première fois que j'ai lu ça, franchement c'est un des seuls textes de la Bible, j'ai dit mais là il y a un problème, il y a vraiment un problème, j'y comprends rien. Mais j'ai compris au fur et à mesure que plus on entre dans la volonté de Dieu, plus Dieu est exigeant avec la sainteté. Et ça aussi, dans un couple, c'est important que le nom du Seigneur soit sanctifié, qu'on ne passe pas à côté, qu'il n'y ait pas une espèce de mort spirituelle parce qu'on n'a pas obéi au Seigneur. Est-ce qu'il peut y avoir des couples qui n'obéissent pas à Dieu dans le cadre d'un plan de Dieu? Ah oui, bien sûr, mais la preuve, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut quand même se tenir devant Dieu, aimer, prier. Moi, il y a des couples chrétiens qui me disent, moi je ne prie jamais avec ma femme. Moi je vous encourage à aimer, prier avec votre fiancé, à prier comme il faut. On va mettre notre vie entre les mains de Dieu. Moi je sais qu'avec Isabelle, quand on s'est converti, je le dis parce qu'on l'a vécu, on priait chaque fois qu'on se voyait, on priait. Mais des fois on priait 3 minutes, des fois on priait 5 minutes, des fois un quart d'heure. On ne priait pas pour prier, mais je sais qu'on a développé, on veut faire la volonté du Seigneur. Et pourtant moi j'étais pas tellement apte, je pense, à servir le Seigneur. Mais je crois que le Seigneur il nous a formés. Parce qu'il y a l'environnement, parce que des gens autour de moi m'ont encouragé, des pasteurs autour de moi m'ont encouragé à le servir. Et c'est vrai qu'on a besoin de s'encourager les uns les autres. Est-ce que vous encouragez les autres de l'Église à servir Dieu? Les chrétiens, vous qui êtes... Est-ce qu'on vous encourage à servir Dieu? Bon. Je ferai des vidéos et vous passerez la vidéo, d'accord? Oui, on est influencé par les gens, on peut être influencé par l'Église. C'est pour ça que dans l'Église, je vous le répète les jeunes, ne jugez pas. Vous allez vous opposer à Dieu. Et c'est dommage parce qu'il y a une frustration. Et si vous avez tendance à juger, même si vous ne le dites pas aux autres, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu peut faire avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a besoin. Parce qu'on est influencé. Les gens sont influencés par le monde même. Est-ce que le monde peut influencer les gens? La mentalité du monde. Eh oui, vous voyez, ce sont des choses bonnes qu'on ne peut pas aborder, mais ce sont des choses qui existent vraiment. Donc Moïse avait un appel, Séphora ne le savait pas, et s'il n'y a pas un dialogue, il y a une séparation. Après, bon, Dieu a posé sa main, le beau-père a été intelligent, il a ramené Séphora vers Moïse. Vous voyez, ça aussi, les séparations, ce n'est pas le sujet de la soirée. Mais est-ce qu'il peut y avoir une séparation dans un couple? Est-ce que ça peut être utile, une séparation? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est... Voilà, pendant un mois, je retourne chez mes parents pour faire le point. Est-ce que ça peut arriver, ça? Vous ne m'aidez pas beaucoup, hein, franchement. Là, vous n'êtes vraiment pas sympa. Parce que c'est quand même un sujet qui n'est pas facile. Mais est-ce que ça peut arriver, une séparation? Oui, ça peut arriver. C'est biblique. Et d'ailleurs, c'est même conseillé dans le Nouveau Testament. Dans les conflits, il y en a. Donc, il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous, on a les épîtres, on a les livres, et que tout ça, nous, on le sépare à cause des chapitres et des versets. Nous, on sépare les pensées parce que les livres sont séparés en chapitres et les chapitres sont séparés en versets. Mais au début, il n'en était pas ainsi. Il y avait une pensée et une lettre faisait un tout. Et par exemple, quand on lit l'Épître aux Éphésiens, on voit bien qu'il y a tout un contexte de la vie, de la conversion, de l'héritage, un contexte de service. Et puis après, il y a des conseils qui sont donnés aux maris, aux épouses, aux enfants, aux employeurs, aux employés. C'est ce que je disais la dernière fois. On ne peut pas saucissonner les choses. La vie spirituelle, ça fait un tout. On n'est pas chrétien qu'à l'Église. Vous êtes d'accord? Si vous êtes chrétien qu'à l'Église, vous êtes quand même un drôle de chrétien. Mais est-ce que ça peut arriver qu'il y ait des chrétiens qu'à l'Église? Oui, on ne sait pas. Il y a des gens, je ne sais pas les choix que les gens font. Ils vont à l'Église et puis après, ils se comportent comme des païens. Bon, moi, je comprends qu'il puisse y avoir des gens comme ça, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, il faut passer par... Il y a un comportement général. Il y a un comportement spirituel. Et si vous n'êtes pas spirituel à l'Église, enfin, si vous n'êtes pas spirituel dans votre vie de l'Église, est-ce que vous le serez dans votre vie de couple? Mais bien sûr que non. Vous voyez, etc. La vie spirituelle, c'est quoi? C'est aller à l'Église. Bon, je l'ai dit, j'ai déjà posé les questions quand les gens répondent. La vie spirituelle, c'est quoi? Certains, c'est aller à l'Église et prier. Vous voyez, pour des gens qui résument la vie spirituelle, c'est peut-être, pour eux, ça veut dire beaucoup de choses. C'est quoi être spirituel? Au fait, c'est quoi être spirituel? Allez, vous allez m'aider. Si vous ne m'aidez pas, je m'en vais. Je compte jusqu'à 3. C'est quoi la vie spirituelle? Est-ce que c'est aller à l'église, prier ou chanter? Ou est-ce que c'est la capacité que Dieu nous donne de marcher avec lui? Parce qu'on reçoit les choses de Dieu, d'accord? La vie spirituelle, c'est ça. Je reçois la capacité de marcher avec Dieu. J'ai du mal à pardonner, eh bien, j'apprends à pardonner, parce que Dieu m'accorde la grâce de recevoir le pardon. Voilà, c'est ça la vie spirituelle. C'est une capacité à apprendre à marcher avec Dieu. C'est pas être un chrétien sur une chaise à toutes les réunions. Et dans le monde où nous sommes, on comprend qu'il n'y a pas que la vie à l'église. Combien de temps vous passez à l'église par semaine? Allez, combien de temps vous passez à l'église? 2 heures, 3 heures, 4 heures, hein, à peu près. C'est une petite partie de notre temps. La majeure partie de votre temps, vous la passez où? À la maison, donc avec les autres aussi, avec sa famille, avec les gens avec qui vous travaillez. Au travail, vous passez combien de temps? Combien de temps vous passez avec les collègues, Prune? Vous voyez? Donc la majeure partie de... Mais c'est important quand même, parce que l'église, c'est vrai, mettons, ça fait 4 ou 5 heures, ou 6 heures, ou 8 heures, pour en fonction des personnes. Mais une grande partie de notre temps, nous la passons avec les autres, donc dans les relations humaines. Nous les passons à la maison, ces heures-là. Donc c'est important, le couple et la famille, bien sûr. Et je voudrais relire un verset pour bien expliquer la pensée du Seigneur par rapport à cette affaire-là. Dans Matthieu chapitre 9, il y a un texte qui résume bien la pensée que je voulais introduire. Matthieu chapitre 9, verset 16. Parce qu'en vérité, un homme, ou il est spirituel, ou il n'est pas. C'est ça que dit ce texte. Matthieu 9, 16 et 17. Voilà, ça c'est un verset qui peut vraiment introduire tout un séminaire sur le couple. Matthieu 9, verset 16. « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. » On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, le vin et les outres se conservent. Alors je ne sais pas si c'est peut-être la première fois que vous lisez cette parabole, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que quand on essaie de faire des choses spirituelles, sans être régénéré, c'est inutile. Et quand on est parent, il faut veiller. Je fais une petite parenthèse. Quand on est parent et qu'on a des enfants dans l'église, il faut veiller à être intelligent et à ne pas forcer nos enfants qui ne sont pas encore convertis à se comporter comme des chrétiens. Parce qu'on en fait des hypocrites. Hein. Après qu'on leur demande de la morale, un bon comportement. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est normal qu'on demande à son enfant d'être correct? Voyez. Est-ce que c'est normal? Oui, qu'il soit ponctuel, tout ça, ce sont des valeurs humaines. On doit demander à un enfant, on peut demander à un enfant qu'il ait un bon témoignage, même s'il n'est pas converti, oui ou non. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas encore converti de se comporter comme un chrétien. Vraiment un chrétien. Bon, tu vas prier maintenant à l'église, hein? Mais je ne suis pas converti. Tu vas prier, ça ne fait rien, tu pries. Vous voyez, ça, est-ce qu'on peut faire ça? Non. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et c'est important parce qu'il y a une honnêteté que Dieu bénit. Mais fait ce texte pour dire qu'il y a des choses complètement inutiles. Et que ça ne sert à rien de vouloir avoir un couple béni spirituellement si on n'est pas passé par la nouvelle naissance. Et je vous assure que ça, c'est un des problèmes qui me fait le moins sourire. Hein. De voir combien de couples chrétiens se sont mariés pour se marier. Et 6 mois, 1 an après, un des deux a vérifié que l'autre n'était pas passé par la conversion, mais a fait du cinéma jusqu'au mariage pour obtenir la dulcinée de son cœur. Voilà. Et ça arrive souvent, je l'ai encore vérifié cette semaine. Voyez, et je vous assure, ça fait mal au cœur. Hein. Donc il y a dans la parole de Dieu des conseils comme celui-ci, qui, ça vaut la peine, bon c'est des paraboles, je ne sais pas si vous vous y arrêtez, mais moi quand j'ai préparé cette étude, j'ai dit, mais voilà un texte impeccable pour montrer que la vie, c'est un tout. Et que vous ne réussirez pas votre couple si votre vie spirituelle n'est pas entièrement née de nouveau. C'est important ça. Ça fait de la peine. Moi je vous assure, cette semaine, ça m'a fait beaucoup de peine de voir une affaire comme celle que je viens de vous citer. La vie chrétienne, c'est pas l'église et le couple et la famille et la vie sociale et autre chose. Non. La vie chrétienne, ça fait partie d'un tout. La vie chrétienne, c'est apprendre à comprendre ce que Dieu veut et à bien réagir. Apprendre à bien réagir dans les moments de crise. Parce qu'il y a les moments de bénédiction, mais c'est obligé, il y a des moments de crise dans la vie. Vous le savez. Même si vous êtes très jeune, vous savez qu'il y a des moments de crise et de difficulté. Oui ou non? Mais oui, c'est comme ça. Dans un couple, il y a des moments de joie, il y a des moments où on pleure. Mais on peut se préparer. Cette semaine, j'ai eu l'occasion de faire un enterrement d'une sœur. Et en discutant hier avec elle, quand elle m'interrogeait par rapport à cette paix qu'elle avait, je lui ai dit, mais ma sœur, vous savez pourquoi vous avez cette paix? Elle ne savait même pas pourquoi elle avait la paix, bien sûr, parce qu'elle est chrétienne, d'accord. Mais pourquoi vous avez la paix? Parce que vous vous êtes préparée. Et plus on vieillit dans le couple, on sait très bien que cette échéance peut arriver, que l'on perde son conjoint quand on arrive à 80 ans, 85 ans. On sait très, vous comprenez? Et cette sœur, on en a parlé après, Elle m'a dit, mais vous avez raison. Pourquoi ? C'est ça la vie spirituelle. Vous voyez, je vous donne un exemple qui s'est passé, un bon cette fois-ci, qui s'est passé cette semaine. Une sœur qui a 80 ans et qui, depuis quelques années, s'était préparée. Elle savait que son mari pouvait partir ou qu'elle pouvait partir avant lui. C'est l'inverse qui s'est passé, mais elle s'est préparée. Et la vie spirituelle, c'est quand même apprendre suffisamment des choses spirituelles pour savoir comment réagir dans les moments de crise. Et si on ne parle pas, c'est pour ça que ça pète dans tous les sens. Il y a des couples qui explosent parce qu'ils n'ont pas appris à réagir dans les moments de crise. Alors c'est vrai qu'il y a plein d'exemples, des exemples positifs dans la Bible. Et quand vous, quand vous regardez, vous voyez la fin, par exemple la fin de Moïse, la vie d'Abraham, quand vous regardez tous les couples, vous vous rendez compte que ce qu'ils sont devenus a été proportionnel à leur foi. Oui, il n'y a pas que l'amour. En vérité, voyez, on pourrait. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier. Ce qu'ils sont devenus, bien sûr que c'était lié à l'amour, mais est-ce que l'amour n'est pas à conjuguer avec la foi en continuel? Puisque la Bible dit, Paul dit, mais il y a trois choses qui doivent demeurer, la foi, l'espérance et l'amour. Donc c'est trois vertus qui doivent s'intercaler en permanence. Et ce que les couples sont devenus, ça a été quand même proportionnel à la foi. Regardez Adam et Ève. Adam et Ève, bon, est-ce qu'eux, ils étaient dans un environnement parfait? Est-ce que leur père était bien? Il était bien le père d'Adam et Ève? Je pense qu'il n'y a pas trop de reproches à faire, d'accord? Mais voyez, ce n'est pas parce qu'on est dans un environnement parfait, parce qu'eux l'étaient vraiment, qu'ils se sont bien comportés face à la tentation. Et le premier couple nous parle de la tentation. Et ils ont chuté ensemble. Ça vaut quand même la peine de réfléchir dans un couple à la quantité de tentations qui peuvent se présenter. Est-ce qu'il y en a des tentations dans un couple ? Ben, les tentations, il y en a quand on est seul. Mais les tentations, elles peuvent multiplier aussi quand on est marié, vous comprenez bien. Et là, vous avez l'exemple. Et ils ont chuté ensemble. Dieu le reproche à tous les deux, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais comment ça se fait c'est Ève qui a mangé le fruit, et Dieu fait un reproche à Adam. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas juste. Et oui, mais c'est que tous les deux sont responsables. Ils n'ont pas veillé l'un sur l'autre. Et c'est vrai que le problème de la tentation, en plus, c'est un problème compliqué, parce que le problème de la tentation, ça peut se passer sans que la personne ne le capte, voir la tentation. Je ne parle pas de convoitise. Hein. Il faut bien faire la différence entre la tentation et la convoitise. La tentation, ce n'est pas un péché. Moi, j'ai vu un foyer Albi détruit. Détruit complètement. D'ailleurs, quand on est intervenu, c'était trop tard. Et pourtant, il n'avait jamais trompé sa femme, mais lui pensait que la tentation, c'était de l'adultère. Il m'a dit, j'attends que ma femme parte pour vous parler. Et puis sa femme est partie, il m'a dit, voilà, je suis un adultère. Ah bon, vous avez trompé votre femme. Non, mais c'est pareil. Parce que Jésus a dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a commis l'adultère avec elle. Mais j'ai dit, il n'est pas dit que celui qui est tenté en regardant une femme. Alors il a fait des yeux comme ça, il avait 20 ans de conversion. Alors que c'est écrit, c'est écrit comment? Que l'homme qui est tenté en regardant une femme a commis l'adultère? Ou l'homme qui convoite, qui regarde une femme pour la convoiter a commis l'adultère? C'est écrit comment? Vous voyez, quand on a dit tout à l'heure, écoute. Et moi j'avais 6 mois, même pas 6 mois de pastorat, donc 3 mois de conversion. Mais c'est des choses sur lesquelles, avec mon épouse, on avait discuté. Parce que je trouve que c'est archi important. Si le premier couple qui a vécu dans la perfection a chuté par rapport à la tentation, moi je trouve que ça vaut la peine, d'étudier les quelques textes qui parlent sur la tentation. C'est pas excessif. En tous les cas, ils ont chuté ensemble, et même s'il y a eu la restauration, parce que nous avons un grand Dieu qui est bon, mais il y a toujours quelqu'un qui paye, il a fallu payer. Il y a un agneau, un animal, pour la première fois, qui a été sacrifié pour couvrir la nudité, et ils sont passés dans la deuxième dispensation, la connaissance du bien et du mal. Là aussi, vous voyez, est-ce que l'homme est capable de connaître le bien du mal? Non, on sait très bien que non. La preuve, j'en avais parlé autrefois, quand un homme a inventé la poudre, est-ce que c'était bien la poudre? L'invention de la poudre, c'est excellent, c'est un juif qui a inventé la poudre. Moi, j'ai regardé sur Internet pour savoir. C'est un juif. Mais c'est grâce à la poudre, un peu, que Israël est redevenu le pays d'Israël. Parce qu'il y en a quelqu'un, il y a plusieurs qui étaient intéressés, etc. Bon. Mais la poudre, on ne l'a pas utilisée pour extraire les minéraux. On l'a utilisée pour quoi? Pour faire des armes. Et pour tuer des millions de gens. Vous voyez, l'homme n'a pas le pouvoir. Il faut accepter. Il faut accepter cette, dans l'humilité, que l'homme n'a pas la capacité de bien comprendre le bien du mal. Il n'y a que Dieu qui peut le faire, ça. Tout ça pour dire que quoi, que lorsqu'on cède à certaines choses, eh bien on s'embarque dans d'autres. L'homme n'est pas capable de maîtriser certaines choses. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que la corde à trois fils ne rompt pas facilement. C'est pour ça qu'il faut tout le temps s'en remettre à Dieu. Seigneur, mais aide-moi, donne-moi de la sagesse, donne-moi du discernement. Franchement, est-ce que vous faites souvent cette prière? Est-ce que vous dites souvent, Seigneur, donne-moi de la sagesse, donne-moi donne-moi de la connaissance, de l'intelligence? Ou alors peut-être que vous pensez que vous en avez suffisamment, ou vous pensez peut-être qu'on est trop bête pour recevoir de l'intelligence. Sérieusement, est-ce qu'on peut se mépriser parfois? Est-ce qu'on peut se mépriser et dire, mais non, moi je n'ai pas demandé de la sagesse. Non, mais Dieu m'a demandé de la sagesse à moi. Eh bien si vous la demandez, il vous la donnera. C'est écrit ou c'est pas écrit? Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous, simplement et sans reproche. Et je crois que bien souvent, nous n'avons pas eu ce réflexe. Vous voyez, ça devrait faire partie de nos débats, dans notre famille. De dire à son épouse, écoute, on va prier, on va demander au Seigneur de la sagesse pour éduquer nos enfants. Combien de couples le font? Seigneur, donne-moi de la sagesse pour savoir quand est-ce qu'il faut que je me taise, pour savoir s'il me faut être un peu plus sévère. Oui ou non? C'est ça. C'est pas, les enfants, éduquer des enfants, c'est facile. Quand on n'a pas de gosses, de dire, oh ben, t'as vu, ils ne savent pas éduquer leurs gosses. Hein. Franchement, moi, quand j'en aurai, ça marchera droit. Hein. Moi, j'ai entendu ça, vous voyez. C'est bizarre comment le chemin droit était un petit peu biscornu quand même. Vous voyez? C'est pas évident, hein. C'est facile de juger les autres. Mais quand on a des gosses, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, on vient de parler d'Adam et Ève face à la tentation. Vous voyez, une des choses que vous pourrez faire quand vous vous fréquenterez, dites, Seigneur, garde-nous de la tentation. Garde-nous. Garde-nous de la tentation. Parce que des tentations, il y en a à tous les coins de rue. Est-ce que Dieu va nous garder de la tentation? Est-ce que dans le Notre Père, le Seigneur ne nous enseigne pas à dire, Seigneur, garde-nous du malin, hein. Délivre-nous de la tentation. La traduction « ne nous induit pas en tentation », c'est pas ça. Hein. Mais ça veut dire « Seigneur, garde-nous de ne pas tomber en tentation ». C'est les prières que Dieu exauce. On continue. Lot et sa femme. Vous connaissez l'histoire de Lot et de sa femme? Il a choisi. Il y a des choix. Il a choisi. Et la Bible dit que quand le choix s'est présenté, il a choisi, je le lisais ce matin, il a choisi, on va le lire quand même, c'est dans Genèse. Alors, je ne l'ai pas marqué, mais je vais le trouver. Alors, Genèse chapitre 13, dans ma Bible, il a expliqué que l'homme a rétrogradé. Il y a eu un choix qui s'est présenté. Il a choisi, il a vite choisi, alors qu'il aurait dû dire, tonton, c'est toi qui choisis, puisqu'Abraham était son oncle. Voyez, et Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve. Vous savez que toute votre vie, Dieu vous éprouvera par rapport à des choix, pour le ministère, pour choisir une église, etc., pour choisir peut-être une épouse, etc. Dans Genèse chapitre 13, on voit qu'il y a besoin d'un choix. Il faut qu'il choisisse. Alors regardez, Genèse 13, verset 8, Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et s'il avait dit, je vous assure, franchement, tonton, c'est toi qui choisis. Là, il n'y aurait pas eu du tout la même direction. L'autre se leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Il a vu la super bénédiction verdoyante. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui. Et ce matin, je lisais ce matin la Genèse. Je ne pensais pas prendre ce texte, mais vous voyez, bon, ça tombe à pic. Lot choisit pour lui. Alors, je pense que sa femme était d'accord. Vous voyez, ça aussi, vous voyez, parce que c'est un couple. Je pense que sa femme était d'accord. Et qu'est-ce qui manquait à Lot? Parce qu'on pourrait dire, tiens, il s'est loupé, d'accord. On voit que par la suite, on voit bien qu'il s'est loupé. Qu'est-ce qui manquait à Lot? Il manquait à Lot une véritable expérience avec Dieu. C'était un croyant, mais surtout un croyant qui suivait quelqu'un qui vraiment obéissait à Dieu. Parce que c'est bien d'être dans une église où des gens obéissent. C'est bien de suivre des gens qui obéissent. Mais c'est quand même mieux de faire de véritables expériences personnelles. On l'a vu, ça y est, des gens, par exemple, un est décédé, le mois d'après, la personne avait rétrogradé. Pourquoi? Eh bien parce qu'il suivait quelqu'un qui marchait avec Dieu. Et l'autre, c'est ce qui lui est arrivé. L'autre marche, c'est écrit, il marchait avec Abraham. Mais quand il nous est parlé d'Abraham, Abraham, il ne marchait pas avec tonton ou tati. Abraham, lui, il marchait avec Dieu. C'est ce qui faisait la différence. Et quand il y a des changements, parce que dans la vie, il y a des changements, il y aura des changements, il y aura des choix à faire, et il y a des fois des décisions qui nous tombent dessus, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas choisir pour soi, pour sa bénédiction à soi. Il faut choisir par rapport aux besoins. Est-ce que vous le comprenez, ça? Vous savez, quand je vous donne ce petit témoignage, quand j'étais jeune, quand on avait quelques jours de congé, on allait tout le temps en vacances à Perpignan. On nous prêtait un chalet au bord de la mer, et donc on allait passer quelques jours avec Isabelle et les enfants qui étaient tout petits à Perpignan. Et dans ma tête, dans mon cœur, quand j'allais à l'église, je disais, oh, j'aimerais bien être pasteur à Perpignan. Pasteur stagiaire, c'est pour mon deuxième stage, j'aimerais bien être pasteur à Perpignan. Ça a duré 4 ou 5 ans. Et au bout de 5 ans, donc j'avais vraiment envie d'aller à Perpignan, et on m'a demandé d'aller à Groyer, faire une réunion, qui était à 25 km ou 30 km d'Albi. Je suis arrivé faire le culte dans cette réunion, il y avait 9 personnes. Dans une église où on pouvait mettre, il y avait à l'époque, enfin quand je suis arrivé, il y avait 80 chaises, vous voyez, c'était quand même une belle assemblée. 9 personnes, le chauffage était coupé, il n'y avait pas de chauffage ce dimanche-là. Il y avait 9 personnes, en plus elles ne risquaient pas de se disputer. Elles étaient toutes bien éparpillées pour bien se réchauffer, je pense. Et moi, j'ai prêché et j'ai eu un fardeau pour cette église. La convention arrive. M. Roussel, il me dit, bon, où tu vas? Où tu vas aller? Puisqu'il savait que bon, je devais changer. Et je lui dis, je vais aller à Groyer. Je vais aller à Groyer. Il me dit, bon, c'est toi qui choisis, demain à la pastorale, il te faudra le présenter, etc. C'était le dimanche qu'il me dit ça, pour la convention du lendemain, du lundi. Le lundi soir, j'arrive à la maison avec Isabelle, tout ça, on mange, le téléphone sonne. Monsieur Quintin, qui était le pasteur de Perpignan, m'appelle. Et il me dit, Gérard, on a prié hier soir, on a jeûné. Avec les anciens de Perpignan, on a tous pensé à toi. Je ne sais même pas qu'ils me connaissaient. Il me dit, c'est toi qui dois venir. Tu viens, voilà, tatati, tu auras ton salaire, la voiture, tu t'occupes, comme j'étais directeur de camp, tu feras les camps de ski, tu t'occuperas que de la jeunesse. Voilà. Et moi, je me suis dit, c'est quoi? Groyer? Pas de salaire? Et le soir, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que Dieu veut? Puisqu'il y avait la vallée verdoyante. Et le lendemain, je raconte ça à M. Roussel. Je dis, écoutez, voilà, ça fait 5 ans que je prie pour aller à Perpignan. Et voilà, hier soir, il y a M. Quintin. Je lui raconte. Il me dit, écoute, c'est à toi de choisir. Donc, je n'ai rien dit à la pastorale. J'ai rien dit. Il me dit, qu'est-ce que tu dis? Je dis rien, je ne sais pas quoi faire. Et le soir, ce texte m'est revenu. Dans la voiture, je priais. Et c'est comme si Dieu me disait, ne choisis pas la vallée verdoyante. Réponds à un besoin. Et j'ai dit à M. Roussel, le lendemain, j'irai à Groyer. Je n'ai pas choisi pour moi. J'ai vraiment choisi pour l'œuvre de Dieu. Et je vous assure, Dieu m'a béni. Dieu nous a bénis. On a vraiment vécu quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ma femme, elle était d'accord avec moi. Elle a dit, non, on ira grouiller. Pourtant, je vous assure, le salaire, on ne savait pas le salaire qu'on allait avoir. Il y avait, quand on est arrivé, il n'y avait rien, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de son, il n'y avait rien, pas de musicien, rien. Et Dieu a béni. Je donne ce témoignage parce que je sais ce que je dis. Ce n'est pas des études que je fais. C'est une expérience. Il y a des choses. Et c'est pour ça, ce qui manquait à l'autre, c'était vraiment une expérience. Et ça vaut la peine de dire, voilà, on ne choisira pas pour nous. On répondra à un besoin. Est-ce que dans votre cœur, vous êtes capable de dire, mais je ne dis pas ça pour vous tester, mais c'est peut-être Dieu qui vous teste. Est-ce que vous dites, je choisirai pour le besoin. Je répondrai à des besoins. Eh bien, Dieu vous bénira. Croyez-moi. Lot a opté pour le matérialisme. Et le matérialisme, bon, béni soit Dieu si Dieu nous bénit matériellement. Est-ce que vous avez tout matériellement? Est-ce que Dieu vous a béni matériellement? Est-ce que c'est bien d'être béni matériellement? Oui, mais il ne faut pas choisir le matériel. Si Dieu vous le donne, bénissez-le. Bénissez Dieu. Si vous êtes béni matériellement, ne jouons pas les hypocrites et les pseudo-spirituels. Mes frères et sœurs, si Dieu vous a béni matériellement, eh bien glorifiez Dieu. Glorifiez-le. Si vous avez 3 châteaux en Espagne, ben moi ça ne me gêne pas. Ce n'est pas parce que vous seriez millionnaire que vous ne choisirez pas pour Dieu. Et ce n'est pas parce que vous êtes pauvre que vous allez choisir pour le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, les riches, la Bible est catégorique, que les pauvres ne doivent pas juger les riches. Et que les riches ne doivent pas mépriser les pauvres. C'est écrit tout ça. Et ça s'apprend. Mais quand même, quand je vois le nombre de gens qui rétrogradent, je trouve que ça vaut la peine de comprendre ces choses, parce que c'est quand même dans le cadre du couple que ça s'est passé. Croyez-moi. Quand le jugement est venu, parce que le jugement viendra un jour, qu'on le veuille ou non, oui ou non, quand le jugement est venu, vous avez vu la pagaille dans la maison de Lot, ces gendres ont cru qu'ils plaisantaient. Moi, j'aime rire, hein. J'espère que vous aimez rire. Il y a un temps pour rire. Est-ce que c'est bien de rire? Ben ouais. Il y a un temps pour tout. On va pas se forcer à rire, on va pas se forcer à pleurer. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Mais je peux vous dire que quand Lot a parlé du jugement qui allait tomber sur Sodome, ses gendres, ils ont cru qu'il blaguait. Mais le résultat, c'est que ses gendres, ils sont restés avec les deux filles. Ça fait qu'il y a deux filles qui sont tombées sous le jugement à cause de la légèreté de Lot. Et les deux autres filles qui sont sorties, bon, vous avez vu sa femme, comment ça a terminé pour sa femme? Et vous avez vu les deux filles avec qui, comment ça s'est passé? Les conséquences quand on choisit que pour soi. Et moi, c'est quelque chose d'archi simple. D'ailleurs, c'est biblique, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Si vous choisissez pour Dieu, pour répondre aux besoins de l'Église, je le ferai. Ma priorité, ça sera notre priorité avec mon épouse, ça sera l'Église. Et je peux vous dire que Dieu vous bénira. C'est comme ça. On ne va pas parler trop longtemps de cette affaire, mais un peu pour vous dire que quand le jugement viendra, ça vaut la peine d'avoir tout fait pour que nos familles nous suivent. Amen. Voilà. Job et sa femme. Vous connaissez le livre de Job? C'est un livre qui m'a fait soulever des centaines de questions. Mais aujourd'hui, quand même, les années ont passé et je bénis Dieu de ce que j'ai compris. L'épreuve, le couple face à l'épreuve. Tiens donc. Il y a des épreuves dans un couple. Dans tous les couples, il y a des épreuves. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme épreuve dans un couple qui peuvent le mettre en péril? Le deuil d'un enfant, est-ce que ça peut être... La maladie. Quelqu'un de malade. Est-ce que ça peut arriver qu'un conjoint tombe malade? Malade pour la vie. Paralysé pour la vie. Qu'est-ce que vous feriez? Vous mariez avec un gars en pleine santé? Paf! Un an après, il est paralysé pour la vie. Vous ne pouvez plus avoir de relation sexuelle avec lui toute votre vie. Et est-ce que ça peut arriver? Eh oui, ça peut arriver. Tout ça, il faut en parler. Il a perdu ses biens, tous ses biens. Comment on réagit dans un couple lorsque le mari perd tout son travail? Ça peut arriver, ça? Est-ce que ça peut arriver? Eh oui, ça peut arriver. Il y a des couples qui ont explosé pour pas grand-chose. Le deuil, la perte des enfants, la perte de la santé, sa femme qui a perdu tous les biens, qui a perdu tous ses enfants et qui a perdu la santé de son mari, et qui est folle de rage, hein. Et on la comprend. Mais Dieu ne lui reproche jamais en plus. Mais elle va lui dire, mais maudit Dieu, elle meurt, elle n'en peut plus de voir son mari souffrir. Cette femme, elle est en pleine dépression, c'est normal. Parce que là, dans un couple, on peut être affecté par des épreuves. On sera affecté par des épreuves. Et c'est vrai que la rupture a failli se produire avec Lot et sa femme. Mais parce qu'il y a, pas, il y a des ruptures, mais il y a des combats aussi, il y a des combats spirituels. Nous, on parle du couple un peu au niveau humain. Mais n'oublions pas qu'en même temps, il y a tout ce qui est spirituel. Il y a tout ce qui se passe dans l'invisible. Il y a quand même des combats spirituels. Il y en a un qui s'occupe de nous dégommer, croyez-moi. Par rapport à toutes les épreuves, il en profite. Et lorsqu'on est irrité par rapport à ce qui se passe, la femme de Job, elle est irritée. Et oui, il y a des situations qui peuvent nous irriter. Mais vous avez vu comment ça se termine ? Est-ce que ça vaut la peine de patienter parfois ? Franchement, est-ce que ça valait la peine qu'il patiente ? Non ? Vous savez, ça ne doit pas être facile quand vous vous levez le matin, que vous voyez les 10 tombes de vos enfants là au fond du jardin. Vous savez, nous on lit, mais plus on lit, plus on... Moi je fais des films, je me fais des films. Voilà. Et quand on comprend vraiment ce qui a dû se passer, je peux vous dire, mais après, quand vous laissez Dieu, quand vous obéissez à Dieu, quand vous dites, moi, je sais une chose, mon Rédempteur, il est vivant. Et demain, on en parlera. Demain, je vais prêcher. Au début, quand j'ai préparé ma prédication, je trouvais que c'était un peu élémentaire. Parce qu'il faut du béaba, il faut du steak épais, etc. Mais je pense que beaucoup de chrétiens devraient réviser leur notion qu'ils ont du Dieu vivant. Et Job s'en est sorti avec sa femme et a aidé sa femme. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, je sais une chose, c'est que mon Rédempteur, il est vivant. Et que dans l'épreuve, il n'a pas dit, je sortirai plus riche. C'est ce qui est arrivé en plus. Il a dit, je sortirai pur comme l'or. Et quand vous lisez quand même, bon même dans cette épreuve, il a dit des trucs intimes. Quand il dit, mon âme est dégoûtée de la vie. Est-ce que c'était normal qu'il dise, mon âme, j'en ai marre ? Est-ce que c'était normal qu'il... Ben oui, Dieu ne le lui a jamais reproché. Regardez la fin. Entre ce que l'on dit dans la souffrance, d'ailleurs même c'est Anne qui le dit, mais c'est l'excès de ma douleur qui me fait parler comme ça. Est-ce que quand quelqu'un souffre, il a le droit de dire il en rit ? Mais bien sûr, non, mais ne jouons pas les supraspirituels. Mais cet homme, il savait que Dieu était vivant, ce que ses amis ne savaient peut-être pas bien, avaient pas bien compris. Lui, il savait que son Rédempteur était vivant. Et puis il y a eu guérison, restauration, bénédiction. Vous n'avez pas envie de faire des expériences avec Dieu ? N'attendons pas d'être dans la galère pour faire des expériences, hein. C'est pas la peine, hein. Ananias et Saphira, vous connaissez ce couple ? Ils s'entendent bien. Ils s'entendent bien tous les deux. Ils s'entendent bien pour mentir. Vous voyez ? Un couple qui s'entend bien pour mentir aux apôtres et pour mentir à Dieu. Ils étaient d'accord pour ça. Vous voyez, c'est ça, s'il y a des exemples à ne pas imiter. Aimer la vérité, même si ça vous fait perdre des amis. Moi, j'ai perdu 4 amis, vraiment des amis, parce que en leur disant la vérité, on peut pas mentir. On peut ne pas dire les choses, parce que, mais des fois, quand on vous demande, ouais, ça peut arriver. Mais ne vous mettez pas d'accord pour mentir, pour être roublard, pour estorquer, etc. On pourrait en parler longtemps, mais c'est pas la peine. Prisca et Aquila, vous connaissez Prisca et Aquila? Quand vous voyez ce couple, franchement, sans être jaloux, vous avez envie de leur ressembler. Prisca, la petite vieille, ça veut dire Aquila, ça veut dire l'aigle. Un couple, quand Paul parle d'eux, Paul, le grand apôtre Paul, Paul dit, ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Vous voyez, on est loin de Ananias et Saphira, hein. Des couples, quand on voit comment Dieu les a utilisés pour Apollos. Apollos, c'était quelqu'un, là, c'est pas Saul de Tarse, mais c'était vraiment quelqu'un d'intelligent. Et bien, Dieu a utilisé ce simple couple pour cet érudit. Bon, il faut lire les actes, on ne va pas tout lire. Vous comprenez qu'on ne va pas tout lire parce que le temps ne nous le permet pas. Mais quelle grâce, hein, d'être une bénédiction dans le couple, d'inviter. Je ne sais pas si vous aimez inviter, si vous aimez faire du bien. Vous aimez faire du bien autour de vous ? Invitez, tiens ma maison, notre maison va l'utiliser, mais pour inviter les gens. Quand on peut, mais quand on peut. Est-ce que c'est une bénédiction? Tiens, Laura, quand elle sera mariée, tu marieras Laura et moi? Oui. Tu te marieras? Bon. Tu m'inviteras? Bon. Est-ce que tu pourrais dire à ton mari, tiens, chérie, on invitera les jeunes de l'église? Hein? Ça te va? Oui, mais non, mais bon, je plaisante, mais est-ce que vous croyez que Dieu bénit cette affaire? Vous voyez, quand vous regardez Prisca, il y a qui la Prisca, je vous dis petite vieille. Et c'est vrai que c'est un drôle de nom, ça, Prisca. Prisca ou Priscille, il y en a des Priscilles? Petite vieille. C'est vrai qu'on a vite fait de taxer de petits vieux, les gens qui sont intègres, de légalistes, on a vite fait de les taxer. Mais ça vaut quand même la peine d'avoir des principes bibliques et de les respecter, croyez-moi, d'être intègre. Intègre pas dans le sens d'intégriste. Intègre dans le sens d'intégrer les choses de Dieu dans notre cœur. Parce que les mots aujourd'hui, il faut quand même les expliquer quand on voit tout ce qui se passe. En tous les cas, une chose est sûre, qu'est-ce qu'il y a Ah, il faut que j'arrête de prêcher. Alors ça, c'est la meilleure. Le stagiaire qui me demande d'arrêter de prêcher. Ah non, mais franchement, c'est la première fois qu'on me fait ça. Franchement, non, c'est moi qui lui ai dit qu'il me le dise quand je prêcherai une heure. Merci. Non, parce qu'après une heure, je ne sais pas s'il y a beaucoup de bénéfices, parce que ça fait peut-être un peu long. Merci, Nicolas. Mais juste, on continuera. On continuera, parce qu'il y a quand même des choses à dire. Hein. Mais mes frères et sœurs, juste, je termine avec une pensée. Le Seigneur a dit que le mariage soit honoré de tous. Alors, vous savez que l'épouse, c'est l'image de l'Église. La barre est haute pour les maris quand même. Marie, aimez vos épouses, au singulier, pour les gens qui ont des problèmes. Aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église. Mais si le mariage n'est pas honoré, comment l'Église sera-t-elle honorée? Vous voyez, c'est des déductions toutes simples. Si l'Église n'est pas honorée, comment le couple sera béni? Mais un couple qui est béni, il amène la bénédiction sur l'Église. Et l'homme et la femme se comportent c'est une question de complémentarité. Et quand on voit la rivalité qu'il y a dans le monde, vous avez vu, dans le monde, les couples, maintenant, c'est un terme de rivalité. Combien elle gagne? Est-ce qu'elle gagne? Est-ce que tu gagnes plus que moi? Je gagne plus que mon mari? Non! Non, mais je ne sais pas si c'est bien intelligent, ça, quand on est dans la rivalité. Dans le royaume de Dieu, on n'est pas dans la rivalité. Dans le royaume de Dieu, on est dans la complémentarité. Alors c'est vrai que ça se fera l'homme. Franchement, c'est vrai que je vois le repasser. Je peux être une dernière pensée. La rivalité, c'est le péché qui l'a introduit. Vous voyez, quand dans la Bible il est dit, quand l'homme et la femme ont chuté, Dieu dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Vous l'avez lu ça? Moi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce que c'est normal? Parce que, vous savez, j'ai tellement entendu dânerie, les gens veulent tellement être spirituels. Est-ce que c'est normal qu'une femme, physiquement, sexuellement, désire son mari? Est-ce que c'est normal qu'un mari désire sa femme? C'est drôle quand on aborde ces trucs, personne ne répond. Mais bien sûr, c'est normal. Non, mais... J'avais fait un séminaire dans une église, dans un grand rassemblement, et j'avais donné un papier à tout le monde avec la question « Pourquoi voulez-vous vous marier ?» Il y avait plein de gens, plein de gens. Il n'y en a pas un qui a dit pour avoir des relations sexuelles avec ma femme. Il n'y en a pas un. Je me suis dit « Il n'y a que des gens super spirituels dans cette église. » Et puis ils m'ont dit « Mais on n'y a pas pensé, dans le cadre du séminaire, bien entendu. » Mais vous voyez comme quoi on est influencé. Vous voyez quand je disais tout à l'heure qu'on est influencé, est-ce que c'est un peu normal? Parce que si vous ne voulez pas avoir de relations sexuelles, ben vous ne mariez pas. Vous allez me dire « Monsieur Hugo, non mais vous rigolez. » Écoutez-moi, il y a des gens, ils se marient et ils ne veulent pas répondre aux besoins physiques du conjoint. Vous croyez que j'exagère? Vous savez, ma petite expérience m'a montré tellement de choses. Mais laissez-moi vous dire que quand on se marie, on veut répondre aux besoins physiques de son conjoint. C'est un devoir aussi.
Oui.
Et une bénédiction en même temps. Parce qu'il n'y a pas de péché dans la relation sexuelle, dans le cadre du couple. Parce que là aussi, il y en a qui ont essayé d'expliquer qu'il y avait un péché dans la relation sexuelle. Il n'y a pas de péché dans la relation sexuelle, dans le cadre du couple. Donc, quand il est dit « tes désirs se porteront vers ton mari », ça veut dire qu'à cause du péché, écoutez bien, à cause du péché, la femme veut jouer le rôle de l'homme. Et que l'homme prend le rôle de la femme. Vous avez vu comme l'homme a tendance à se féminiser, oui ou non? Et que la femme a tendance à se masculiniser. Est-ce que j'exagère? Vous avez vu, ça devient grave. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est à cause de la rivalité. Et chacun doit avoir sa place. Une femme doit être une femme pour son mari. Un mari doit être un mari pour son épouse. Une femme doit être une mère pour ses enfants. Un mari doit être un père, etc. On doit avoir le rôle qu'il faut que l'on ait. C'est ça l'intelligence. Seigneur, donne-moi d'être le frère que je dois être dans l'assemblée. Donne-moi d'être le père que je dois être auprès de mes enfants. Donne-moi d'être le mari que je dois être auprès de mon épouse et que je fasse connaître les besoins, comme on l'a lu dans le Cantique des Cantiques, quand l'épouse dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Ah non, mais monsieur Gros, c'est spirituel. Spirituel, moi je veux bien. Mais quand même, moi je veux bien me spiritualiser autant de fois que vous voudrez. C'est quand même une femme qui exprime ses besoins. Oui ou non? Donc les désirs, c'est normal. Mais il faut que chacun soit à sa place. Et une femme doit être une femme, féminine. Et un homme, ça doit être un homme, pas un Jean Gabin ou un Schwarzenegger, mais un homme. Non, parce que là aussi, ça vaudrait la peine d'expliquer peut-être pour certains ce que c'est un homme. J'arrête. On continuera la prochaine fois? On continue encore? Oui? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Non, mais ça vaut la peine quand même. Non, mais c'est vrai que là, il me reste 7 ou 8 pages de notes. Est-ce que vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? On fera quand même une réunion sur la vie intime. Et je pense même que ceux qui ne sont pas mariés, parce qu'on peut prendre tout ce qui est écrit dans la Bible. Ne vous inquiétez pas, je ne dépasserai pas ce qui est écrit dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible, on peut tous en parler. Oui ou non? Même nos adolescents ont peut-être besoin d'entendre certaines choses par rapport à la vie intime dans un couple. Voilà, on va demander au Seigneur qu'il nous aide.